Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
quand j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois, j'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
à Cour d'honneur.
Saison 5, épisode 16.
On se retrouve ce soir dans notre studio, ou comme Swan aime l'appeler, notre placard à balais.
Et oui, on est revenu de Bagnoles juste à temps pour profiter du temps parisien qui nous gâte.
Alors on va continuer de vous divertir sous le soleil.
Et sans le vent.
Allez, préparez-vous à une heure de pur plaisir et de kiff. Vos kits pour cette visite audio sont également...
Vos boss ladies préférées, Swan.
Et Ellie.
On vous réserve une trame de ouf et on vous parle pas du fou du tram.
Ce soir, on se pose toujours cette même question.
Mais c'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Et on vous donne justement la réponse dans Cours d'honneur, votre magazine préféré d'infos et de culture.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est en direct un mercredi sur deux.
Ou un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
parler de complot.
N'accuse personne, je ne dis pas qu'il est coupable, je dis simplement, c'est curieux.
Parler de chasse.
Ah, la chasse au pipeau.
Et d'impro.
Eh ben écoutez, tout ça, je vais recommencer d'après. Eh ben écoutez, tout le monde... Oh, la fatigue.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir. Tout d'abord, toi, Swan.
Et oui, alors toutes les deux, on s'est préparé une petite interview qu'on va avoir juste tout à l'heure, ainsi qu'un Sorbonne Love un peu hors des règles. Mais toi aussi, Ellie.
Et oui, bonsoir. Du coup, on a notre petite interview toutes les deux. Mm-hmm. Et je vous ai aussi préparé une petite chronique pavée sur une certaine Jeanne d'Arc. On a aussi ce soir Romain. Bonsoir.
Bonsoir. Et moi, je vous ai prévu un petit édito sur l'art de s'ennuyer.
Super, bonsoir aussi à Elias.
Et bonsoir tout le monde, moi ce soir je vous ai préparé le micro-trottoir de la semaine sur Pâques, la magie de Pâques, est-ce qu'elle perdure avec l'âge, on verra ça.
On a hâte de se régaler avec ta chronique, bonsoir aussi à Clara.
Et bonsoir, alors le son de l'impro c'était pour moi, ça sera dans le reportage sur la Ludie et ensuite on ira à une petite chronique débrouille sur un super goûter à prendre à Paris.
Quelle bosseuse, tout ça pour nous régaler, bonsoir aussi à Lavinia.
Hello les filles, alors moi je vous ai préparé un Sorbonne en personne sur un certain Thomas, j'en dis pas plus.
On se demande lequel.
Intriguant, et bonsoir aussi à Mathilde.
Bonsoir, moi je vous ai préparé à nouveau une carte postale et on poursuit les visites emblématiques de Paris.
Merci Mathilde, grâce à qui, enfin la sauveuse finalement, grâce à qui, sinon on n'aurait pas de tram. On embrasse aussi Jade qui se passe de nous mais dont on ne peut pas se passer.
Merci également à notre invité Victor Gisembert d'avoir répondu à notre invitation pour l'interview.
Et notre madré Thomas Schnell évidemment, toujours là pour assurer nos arrières.
Allez au boulot.
Allez, que vous soyez vous aussi en train de combattre l'envie de sécher ce CM pour aller bronzer.
Ou en train de rattraper ce cours que vous avez séché.
Ou simplement de vous la couler douce.
On vous accueille parmi nous pour la prochaine heure.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment fichu.
Carte blanche.
Et si s'ennuyer, c'était pas une perte de temps mais une nécessité, c'est l'édito du jour avec Romain.
Dans un monde où tout va toujours trop vite, où chaque seconde peut être remplie, une question mérite d'être posée. Et si notre vrai luxe aujourd'hui, ça serait de s'ennuyer? Parce qu'on ne s'ennuie plus, plus jamais. Dans le métro, téléphone, en attendant un pote téléphone, même pendant les CM à la fac, téléphone. Je sais que vous êtes tous concernés ici, inutile de nier mes chers camarades. On a remplacé le vide par du contenu, du scroll, des vidéos, des jeux vidéo même, et sur le papier ça a l'air génial, on ne perd plus aucun temps. Mais en réalité, on a surtout perdu une dinguerie. On a perdu ce moment où le cerveau divague, où on réfléchit sans but précis comme à un cours de grammaire le mercredi matin durant lequel une idée un peu loufoque apparaît et devient peut-être une bonne idée. Parce que l'ennui, c'est pas du tout du temps perdu, c'est du temps de création. C'est souvent quand on ne fait rien qu'on pense le mieux. Mais aujourd'hui, le moindre micro-silence nous met mal à l'aise. Donc on le remplit un peu comme on peut, c'est comme si on avait peur de se faire face. Et le nerf de cette guerre, peut-être, il est là. Parce qu'on a, à force de consommer des idées toute la journée, on en oublie presque de créer. Alors non, je ne dis pas qu'il faut jeter son téléphone, je ne suis pas Inoxtag non plus, faudrait pas abuser du bail. Mais peut-être juste accepter de ne rien faire, parfois, chill, et laisser un moment vide, juste pour voir ce qu'il se passe, parce que peut-être que dans ce vide, il y a quelque chose d'intéressant qui attend.
Merci Romain. Sur ce, il est 20h07 sur Radio Sorbonne et 18h07 sur Radio Campus. Maintenant qu'on est revenu à Paris, j'ai vraiment envie de retourner au bord de la mer.
Oh, c'est dommage que tu aies mis ça maintenant. Même si t'es une bonne présentatrice, je t'aurais bien laissé là-bas. Après, t'inquiète, ça va aller, il fait beau en plus. Puis tu sais, dans la vie,
il y a des hauts,
il y a des bas.
Et maintenant,
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
En pleine période de Pâques, on mange plus de chocolat que ne peut en produire Willy Wonka, mais cette fête a-t-elle toujours du sens pour les étudiants? Repas de famille, souvenirs de chasse aux œufs. Et là, c'est parti vous demander si la magie de Pâques s'estompait au fil des années.
Ça s'estompe, mais on a toujours cette habitude, par exemple, de se rassembler entre proches, que ce soit les amis ou la famille. Cette habitude aussi des chocolats ou des bons repas ou des bons moments. Ça représente ça pour nous et on prend en compte aussi tout le bonheur des autres qui sont religieux.
Moi, je pense que Pâques, c'est pas forcément religieux. Je pense que c'est un peu comme Noël. C'est tellement ancré dans notre société que maintenant, bah, tu peux ne pas croire en Dieu, mais quand même faire Pâques, faire la chasse aux œufs sans forcément croire en Dieu et être dans toute la religion.
Moi, je dirais que Pâques, ça garde toujours sa valeur, mais plus parce que y a l'aspect religieux qui entre en compte. La famille, on va toujours à la messe, c'est un peu toujours la même tradition. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette hâte de la chasse aux œufs de Pâques. Mais il y a toujours voilà, l'esprit de famille et la religion qui fait que ça se perpétue.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, de plus en plus, a de la valeur, en tout cas en France, dans le monde entier. Ça a toujours été l'une des fêtes très importantes, que ce soit de la religion, mais aussi vis-à-vis un petit peu qu'il y a du folklore autour de ça. Donc, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de perte autour de cette valeur-là. Et je trouve que c'est quelque chose, au contraire, qui est bien.
Moi, je pense que pour moi, ça s'estompe un petit peu avec le temps, mais peut-être aussi parce que je ne suis pas croyante. J'habite plus chez mes parents depuis 5 ans, je viens de Roumanie. Donc les Pâques, c'est dans une semaine de toute façon pour les orthodoxes. Et vu que je ne fête plus les Pâques avec ma famille, je ne fête plus les Pâques tout court. Je suis à Paris pour faire la fête à la place. Voilà, mais je trouve effectivement que ça a perdu sa valeur, oui.
Moi, je dirais la même chose. C'est pareil, je n'ai plus chez mes parents depuis 6 ans maintenant. Pareil, je ne suis pas croyant non plus. Après, j'ai beaucoup de potes qui sont croyants et qui, eux, étaient tous en famille cette semaine et pour qui c'était vraiment important. L'option de faire autre chose n'était pas existante. On reste dans l'esprit de Pâques si on a vraiment un intérêt religieux derrière quand on vieillit.
Alors, j'ai une toute première question à vous poser, avant tout très importante. Dites pas que vous faites encore la chasse aux œufs, quand même. Parce qu'il n'y a pas d'âge.
Non.
Nang.
Nang. Non plus.
J'avoue que les œufs, je les mange. Après, je les chasse pas vraiment. Je les achète. Mais c'est tout.
Et moi, cette année, c'était pas de chasse aux œufs et pas de chocolat. Voilà. Pourtant, ah oui. J'ai des bras.
Pas mal, ça.
Alors dans ma colocation, on fait une chasse aux œufs.
Ah, merci.
Ma coloc m'a fait une surprise. Quand je suis entrée, il y avait une petite lettre du lapin de Pâques. C'est trop mignon.
Trop mignon.
Je ne sais pas d'où elle vient. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance qu'il s'aventure jusqu'à notre complexe résidentiel. Mais voilà, ça perdure aussi à l'âge adulte.
C'est fou le lapin qui se balade dans le...
Ou les cloches.
Mais comment est-ce que les cloches ont fait tomber des chocolats dans ce dortoir?
Sans qu'on les entende.
Sans qu'on les entende.
Et de toute façon, il me semble que t'es rentrée pour Pâques.
Mais oui, moi je suis rentrée pour Pâques. On a fait la chasse aux œufs chez tous les grands-parents, chez nos parents. Après, pour mon parti, mon petit frère a 10 ans, 11 ans, waouh. Mais ça n'excuse rien du tout d'ailleurs, parce qu'on le fera encore à 30, 35, 40, 45. Enfin, c'est génial de courir dans le jardin pour prendre des chocolats qui ne sont pas bien cachés en plus, qui sont presque fondus parce qu'il fait hyper chaud en ce moment. Enfin, je veux dire. Pourquoi pas?
Et justement, tu parles de jardin et toi, Lavinia, tu parles de coloc. Je pense que ça dépend de la place qu'on a. Moi, j'ai 13 mètres carrés.
Oh, mais on s'adapte. Tu fais dans l'escalier.
Ouais. Non, mais j'avoue, je pense aussi que t'es pas avec qui tu es.
Oui,
moi, j'étais toute seule. Pâques, ça a rimé avec une journée de taf au plus au resto. Donc, voilà. Hein. Mais ouais. Par contre, les gens, j'ai senti qu'il y avait un truc, du coup, jour férié, on est ensemble, etc. Donc, je pense que ouais, ça perdure. Peut-être pas dans les formes. Enfin, ça se diversifie. Avant, c'était vraiment que la chasse aux œufs, le contexte religieux. Aujourd'hui, même hors contexte religieux, comme ils sont dit dans le micro-trottoir, tu peux tout à fait aller chercher tes petits œufs. Enfin, moi, mes sœurs avec leurs gamins, elles font ça. Donc,
c'est vrai que ça, c'est voilà. Intéressant parce qu'on peut voir aussi tous les points de vue de Pâques. Pour certains, c'est juste un week-end de 3 jours. Pour d'autres, c'est aller à la messe le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Pour d'autres encore, c'est juste manger. Jusqu'à n'en plus pouvoir. Enfin, c'est super, on voit à chaque fois. Et pour les commerciaux, c'est juste énormément de clients. C'est super. C'est pas mal. Tu voulais dire quelque chose, Romain?
Je voulais dire que par rapport au restaurant, peut-être qu'ils auraient peut-être pu faire une chasse aux œufs dans les cuisines.
C'est vrai. Une chasse au dessert. Ça, c'est pas mal.
Ou sinon, à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, tu prends tes propres œufs, tu les caches toi-même.
Et après, tu vas les chercher toi-même aussi. Et comme ça, ça fait un semblant de chasse aux œufs. C'est un peu triste. Mais
au moins, ça sera bien caché.
Mais voilà, c'est ça. Au moins, ça sera bien caché.
Si tu prends de vrais œufs, tu vas te laisser guider au bout de 2 semaines par l'odeur. Puis...
ah oui, ouais, ouais, ouais. Non, je pensais à des œufs en chocolat, mais tu peux faire ça. Après, c'est moins marrant en coloc, j'imagine. Si ta coloc cache des œufs.
Il n'y
a pas de place pour le doute dans une petite pièce.
Sous le lit, sous la couette, partout. Entre les livres.
Non, mais c'est vrai, en plus, pendant le micro-trottoir du coup, que j'ai enregistré, j'ai remarqué que les gens associaient beaucoup Pâques à la religion, ce qui est un peu logique. Mais dans ma conception de Pâques, n'étant moi-même pas religieux, j'ai pas fait le lien. En fait, c'est en allant voir les gens que je me suis rendu compte que ça pouvait prendre quand même pas mal de place, la religion à Pâques. Alors que pour moi, bah, je voyais surtout ça comme la fête un peu des enfants, où tu vas voir tes petits cousins, où tu leur offres des chocolats. Et ça m'a surpris.
Ah oui, pourtant, il n'y avait pas du tout la résurrection de Jésus et tout ça.
Ouais. Bah, moi non plus.
Hein. Je suis... ça, mais en fait, c'est dans la religion familiale, l'éducation. Du coup, c'est vrai que c'est étonnant, mais pas tant, finalement.
Pourtant, mes grands-parents, je l'ai fêté avec eux plus petite. Ma grand-mère est très croyante, etc. Mais c'est vrai que mes parents, ne l'étant pas, j'ai jamais eu cette éducation religieuse. Et du coup, Pâques, c'était vraiment juste, on chassait des œufs, on se pétait le bide, comme on dit.
Bon repas, pire que
petite
Noël.
Petite crise de foi, et puis voilà. Mon plus grand plaisir, et puis voilà, quoi.
Moi, je pense que religion par religion, ce que ça montre, c'est qu'il y a toujours ce besoin d'être ensemble et un peu de faire communauté, entre guillemets. Tout des prétextes pour se retrouver en famille, comme tu disais, manger autour d'un bon repas. Pas forcément des œufs en chocolat, mais regarde, genre, rien que le fait qu'on ait eu plus de gens qu'un lundi normal au resto, ça veut bien dire aussi qu'il y a ce côté, voilà, profitons de ce moment pour être ensemble.
Exactement, c'est toujours une excuse pour se rassembler, se retrouver. Joie-nous, on rentre rarement chez nous parce qu'on habite très loin de la maison familiale. Mais lorsqu'on rentre, c'est souvent voilà, pour Noël, pour Pâques, c'est tout. Non, pour les anniversaires. Ouais, voilà. Et dans ces cas-là, en fait, c'est juste pouvoir tout retrouver tout le monde, les cousins, les cousines, les grands-parents. Et c'est super, c'est une très bonne occasion. Et tu voulais parler encore, Romain ?
Ouais, par rapport aussi... c'est gentil, merci beaucoup. Par rapport aussi au chocolat, en fait, c'est sympa de pouvoir en manger tout le temps, mais après, ça fait, par exemple, pour les gens qui sont assez addictifs comme moi, c'est un peu compliqué, surtout en période de régime, parce que du coup, faut s'en priver. Ouais. Moi, perso, j'ai pas mangé mes chocolats.
Pour les gens addictifs, du coup.
Ouais, les gens addicts. Les gens addicts.
Oui.
Les gens addictifs.
Il est addictif, Romain.
Excuse-moi.
Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que, parlons là, si on parle là-dessus, c'est vrai que si t'as une addiction au sucre, au chocolat, t'es là, bon, en famille et tout, ah bah non, mais ça fait replonger presque instant. Donc bon. Et quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la crise?
Le religieux, quand même, c'est une Pâques chrétienne et juive aussi. Enfin, ça tombe en même temps. Donc peut-être la version juive est moins visible dans la société parce qu'il n'y a pas tout ce côté commercial. Oui. Mais Pâques, enfin, autour de moi, j'en ai entendu en tout cas un peu parler de la part des deux communautés. Il y a quand même une prégnance religieuse qui reste assez forte.
Oui, c'est vrai. On l'observe assez facilement. Bon, allez, là-dessus, je peux vous dire que je suis rentrée chez ma famille pour Pâques et c'est toujours très sympa de se retrouver, mais surtout de se péter le foie.
Tu sais, Swan, qu'il y en a une qui est encore plus hate que toi, mais pas de chocolat, juste son nouvel album.
J'aime quand tu dis des trucs comme ça et surtout que je sais de qui il s'agit.
C'est Ray, tout de suite avec Lifeboat.
I'm not giving up yet.
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 I Il est 18h19 sur Radio Campus et 20h19 sur Radio Sorbonne. Et maintenant qu'elle vous a introduit la vibe été en ce début de printemps, on peut passer au plat de résistance sous le soleil, toujours avec l'interview de Victor Gisembert, par nous-mêmes.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Aujourd'hui, dans Cours d'honneur, nous recevons le spécialiste de l'histoire de la philosophie et de l'histoire des sciences, Victor Gisembert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, affilié au centre Léon Robin de Sorbonne Université, dédié à la recherche sur la pensée antique, hébergé par la faculté des lettres au deuxième étage, salle F371, pour nos auditeurs curieux. Nous vous invitons pour parler de palimpseste. Qu'est-ce que c'est un palimpseste? Il s'agit d'un parchemin qu'on a effacé pour écrire à nouveau dessus. C'était une pratique courante à cause du coût des matériaux. Vous avez retrouvé des feuillets, appartenant au palimpseste d'Archimède, dans la ville française de Blois. Oui, le grand savant Archimède de Syracuse, connu pour sa poussée, a vu une partie de son œuvre recyclée. Donc, ma première question, c'est ça fait quoi d'être un chercheur qui a trouvé, ou plus précisément retrouvé ?
Bon, c'est pas si rare que les chercheurs trouvent, je dirais quand même ça. Évidemment, on est toujours content de trouver, et là, c'était assez stupéfiant. Vraiment, je ne m'attendais pas à trouver ça de mon vivant, et c'était complètement inattendu.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement du processus? Comment est-ce que le palimpseste est recyclé?
Alors oui, pour recycler, c'est effectivement le terme de recyclage est très juste. C'est une forme précoce de recyclage. Et pour faire ça, d'abord on prend le parchemin et on le trempe dans des solutions, souvent avec du lait, avec différents additifs, par exemple de la craie aussi. Et ça prépare l'effacement en déliant un peu les encres qui sont dans les peaux. Et après, c'est une méthode assez simple, hein, on frotte avec généralement une pierre ponce, parfois une lame, si on a une lame en métal sous la main, et on efface plus ou moins efficacement.
Très bien. Et qu'est-ce qui contenait le feuillet que vous avez retrouvé?
Alors, ce feuillet... on peut le voir sur Internet et on voit tout de suite une figure géométrique qui apparaît. On voit qu'il y a deux couches de texte, l'une perpendiculaire à l'autre. C'est du texte en grec, mais donc on peut lire sur la couche supérieure. Après l'effacement, on sait que c'est un livre de prière. En dessous, donc... ce que j'ai découvert, c'est qu'il s'agit du texte d'Archimède. Donc on peut déchiffrer quelques mots à l'œil nu. Et ce qui est très curieux, c'est que de l'autre côté, donc un folio c'est deux pages, enfin c'est les deux côtés, et de l'autre côté, quelqu'un au XXe siècle a rajouté une enluminure, c'est-à-dire une illustration avec beaucoup de dorure, c'est très impressionnant, mais en fait, c'est complètement incongru, et c'est quelqu'un qui a rajouté ça au XXe siècle pour sans doute essayer de vendre rapidement le folio en question.
Vous disiez que donc, vous avez retrouvé une enluminure avec de la dorure, donc c'est plutôt dans un bon état, c'est presque comme en état d'origine, ou ça a quand même été abîmé par le temps, non ?
Alors oui, c'est un manuscrit qui a souffert. Il a quand même environ 1000 ans. Hein. Le texte d'Archimède, il a été copié au Xe siècle. Ensuite, il a été effacé, réécrit. Entre-temps, pendant la croisade de 1204, le texte d'Archimède avait été emporté de Constantinople à Jérusalem. Donc ces problèmes, ils commencent, ils datent pas d'hier. Il a été bien conservé au Saint-Sépulcre à Jérusalem, puis dans une dépendance du Saint-Sépulcre à Constantinople. Et c'est là où on a découvert, où le grand savant Johann Ludwig Heiberg a découvert le texte d'Archimède. Il s'agit en fait d'un volume qui contient beaucoup de pages. Hein. Et bon, ça a fait la une du New York Times. Ça a attiré vraiment l'attention du monde entier. En 1907, et peu de temps après, le manuscrit a disparu de la bibliothèque qu'il avait vraiment bien conservée, et il a refait surface dans une famille française. Et là, il faut dire que les conditions de conservation n'étaient pas du tout optimales. On voit qu'au XXe siècle, il a beaucoup souffert de l'humidité. Puis quelqu'un a donc rajouté des enluminures. Alors oui, certes, elles sont en bon état, elles ont que quelques dizaines d'années, mais c'est du vandalisme, en fait, de rajouter ces enluminures. Et quelqu'un a aussi coupé quelques pages pour les vendre séparément. Donc on a retrouvé une de ces pages au musée des Beaux-Arts de Blois. On sait que deux autres sont encore dans la nature et aujourd'hui, ça redonne un peu d'espoir de retrouver les deux autres qui sont vraiment très importantes pour le texte d'Archimède qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps.
Et du coup, vous pensez que ça a été volé au musée ou en 1907 ou...
On ne sait pas comment le manuscrit est parti de Constantinople. Moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je ne peux pas caractériser s'il s'agit d'un vol ou non, mais du côté de l'Église orthodoxe, en tout cas, ils ont contesté notamment la vente aux enchères qui a eu lieu en 1998. Elle a été contestée au tribunal parce qu'eux considèrent que le manuscrit leur appartient toujours.
Et donc tout à l'heure, vous disiez que c'était l'un des plus grands manuscrits de mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quel est l'intérêt scientifique de ce palimpseste d'Archimède ?
Oui, donc Archimède, pour donner une idée, sur la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens, on a encore aujourd'hui le portrait d'Archimède. Donc c'est vraiment un des fondateurs des mathématiques. Il y a plus de 2000 ans, il a aussi inventé énormément de choses. Alors vous avez parlé de la poussée d'Archimède, il y a des engins mécaniques... vraiment un esprit incroyablement fécond. Alors ce manuscrit, c'est le plus ancien exemplaire conservé des œuvres d'Archimède. C'est aussi le seul manuscrit qui conserve certains de ses traités, qui sont complètement perdus par ailleurs, notamment la méthode. C'est un texte où il explique comment il a découvert les choses qu'il a découvertes. En général, les textes de mathématiques, c'est plutôt des démonstrations. Là, il explique sa méthode pour trouver les théorèmes avant de les démontrer. Ça, c'est unique pour toutes les mathématiques de l'Antiquité.
Et comment vous avez pu prouver que c'était le palimpseste d'Archimède ?
Oui, c'est important d'expliquer ça. Donc, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu la puce à l'oreille et j'ai passé la soirée à essayer de déchiffrer ce que je pouvais. Et avec quelques mots, on peut retrouver dans les bases de données, on peut retrouver que c'est un texte d'Archimède, le traité de la sphère et du cylindre, livre 1, chapitre temps à temps. Le lendemain matin, en fait... J'ai continué la recherche et j'ai trouvé des photos qui ont été réalisées en 1906 par Heiberg, le découvreur du texte d'Archimède. Donc il avait fait faire des photos quand le manuscrit était encore entier et on reconnaît vraiment la page. Donc là, c'est la confirmation absolue qu'il s'agit de cette page.
Il était dans quelle langue quand vous l'avez déchiffré ?
Donc c'est un manuscrit qui est en grec, c'est du grec ancien. Donc Archimède vivait au 3e siècle avant notre ère hein, et il écrivait en grec ancien. Et ensuite, on a copié très fidèlement ses écrits. Il reste d'ailleurs encore beaucoup de choses à déchiffrer dans ce palimpseste.
Et tout à l'heure, vous parliez du fait que ça a été revendu page par page. Enfin, il y a eu deux pages manquantes aujourd'hui. Est-ce que c'est encore courant de nos jours ce genre de revente un peu à la découpe de manuscrits anciens ?
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des conventions internationales qui réglementent fortement ce genre de pratiques, qui protègent le patrimoine archéologique. Beaucoup de pays, la grande majorité des pays, sont parties prenantes de ces conventions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours appliquées ou respectées. On a des acteurs peu scrupuleux qui peuvent vouloir faire du profit avec le patrimoine culturel. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il s'agit du patrimoine culturel commun de l'humanité. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si les manuscrits sont dans des collections privées, c'est important qu'ils restent accessibles, par exemple, pour les chercheurs, pour qu'on puisse faire connaître leur contenu.
Vous avez aussi dit tout à l'heure que ce texte avait plus de 1000 ans, c'est ça ? On imagine du coup que c'est une grande chance d'avoir trouvé et d'avoir pu déchiffrer tout ça. Est-ce que vous savez quelle est la part de chance dans ce genre de découverte scientifique ?
Il y a toujours une part de chance. Là, il se trouve que moi, je prospecte systématiquement à la recherche des palimpsestes. Je dirige un projet européen de recherche sur les palimpsestes. On a des techniques d'imagerie multispectrale. On a la caméra au labo, au campus des Cordeliers, qu'on peut déplacer partout. Et c'est une technique qui permet de faire ressortir les encres effacées. On les rend visibles, même quand c'est complètement invisible à l'œil nu. Donc, avant d'envoyer l'artillerie, d'amener la grosse caméra... On prospecte, on regarde dans des catalogues, dans des bases de données. Parfois, on va sur place et on fait un premier examen avec une petite lampe de poche à ultraviolet. Et déjà, on comprend beaucoup mieux les choses. Donc, c'est dans ce cadre-là que un jour, j'ai dit, voyons s'il y a des palimpsestes à Blois. Et la part de hasard, c'est que, en fait, on plaisantait avec des collègues. Je ne sais pas si on peut appeler ça une blague, mais les rois de France, au XVIe siècle, ils conservaient une partie de leurs manuscrits à Blois. C'était un château royal. Et donc, je disais, bon, on sait bien que ces manuscrits, maintenant, ont été centralisés à Paris, mais ce serait rigolo de voir s'il n'y a pas un palimpseste qui traîne à Blois. Et j'étais très surpris qu'il y ait même un palimpseste. Je sais qu'il n'y a pas une collection de manuscrits très abondante. Et alors, après, de voir ce palimpseste, cette figure géométrique, cette écriture qui me semblait familière du Xe siècle, etc., ça a été vraiment quelque chose de très inattendu.
Et Sorbonne Université, justement, à quel point est-ce qu'elle soutient ce domaine de recherche ?
Oui, Sorbonne Université soutient beaucoup nos recherches. On a bénéficié notamment de financements par le programme Émergence. Et puis, bon, on est hébergé par Sorbonne Université. Et c'est un soutien qui est constant et qui est vraiment très précieux pour tout ce qu'on a fait et ce qu'on espère faire encore dans les années à venir.
Merci, cette interview touche à sa fin, mais avant toute chose, on a une dernière question pour vous, celle qu'on pose à tous nos invités. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Bah, c'est une bonne question. Bon, moi, j'ai été étudiant à Paris 4, dès 2005. Donc, j'ai fréquenté les lieux depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai ensuite... fait des études ailleurs, travaillé ailleurs, et puis j'ai eu la chance d'y revenir comme chercheur CNRS en 2018. C'est vrai que c'est un endroit très inspirant, avec ses particularités, hein, que vous connaissez bien aussi en tant qu'étudiant. C'est inspirant, mais parfois, au quotidien, on a des surprises aussi. Mais bon, au moins, on ne s'ennuie pas.
Bien, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce petit temps pour cette interview. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, affilié au centre Léon Robin de Sorbonne Université, qui est dédié à la recherche sur la pensée antique. Merci beaucoup, Victor Gisembert.
Merci. Est-ce que vous êtes hébergé par la faculté des lettres au deuxième étage, salle F371. C'est très important.
Pour être très, très précis. Bon, sur ce, on quitte la recherche pour parler de la mer des arts, le théâtre et l'impro.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Jeudi dernier, Clara a mis une story de son match de théâtre d'improvisation, un concept venu du Québec dans les années 70 et qui depuis a fait floraison en France et dans ta fac aussi. Et oui, car Clara s'entraîne toutes les semaines à Jussieu afin de se préparer à ses joutes théâtrales. Retour sur celle de la semaine dernière dans le reportage.
Alors là, on est à Cézieux, l'ancien campus censier de l'université Sorbonne Nouvelle, qui est temporairement devenu un tiers-lieu. Il est 21h passé, je viens de jouer avec mon équipe de la LUDI,
la Ligue Universitaire d'Improvisation d'Île-de-France,
inventée pour casser l'élitisme du théâtre. Les matchs d'impro parodient les règles et la mise en scène du hockey sur glace. C'est pour cela qu'on a des chasubles, parfois une arène de patinoire et surtout un arbitre, chargé de donner les catégories et les thèmes aux joueuses et de veiller au respect des règles. Et ce soir, Lucas peut attester qu'elles étaient bien suivies.
J'ai pas sifflé de faute parce qu'ils étaient super et
le public ne m'aime pas, mais moi j'ai bien aimé le spectacle car ils étaient forts.
Un public composé d'habitués des matchs d'impro, de spectateurs involontaires qui se trouvaient par hasard au bar de Césure, ainsi que des novices venus voir leurs potes pour la première fois.
Salut, je suis Caroline, c'est la première fois que je viens grâce à une pote de l'université, c'était trop cool, les gens ils sont trop talentueux.
Talentueux, il est aussi le staff de l'organisation et de la mise en scène, sans qui rien ne serait possible. Chacun en effet un rôle clé, à commencer par le DJ, chargé des transitions entre les impros. Mais pas que, comme nous l'explique Théophile.
Le DJ peut aussi accompagner les improvisations, donc ça demande un travail d'écoute important et une très vaste connaissance des sons, ce que je n'ai pas pour l'instant, car c'était la première fois que j'ai fait DJ et j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, mais c'était bien quand même et je suis très content.
Malgré l'absence de musique au début, nous sommes restés focus, comme nous félicite Vincent, le débriefeur de ce soir.
Alors déjà, bravo, parce que c'était pas facile, il n'y avait pas de musique au début, donc pour lancer c'est compliqué, ça fait du stress. Parlez plus fort. Imaginez que quand vous jouez pour la personne qui est genre au fond du truc là-haut.
Retour vise à nous faire progresser et à mieux savoir ce que l'on aimerait travailler à travers les différents formats pédagogiques que propose l'asso et que nous présente Doug, responsable formation.
C'est moi qui suis censé gérer les professeurs, les stages et les cartes blanches qui sont des petits cours donnés par des ludiens eux-mêmes pour pouvoir les introduire au grand monde du professorat de l'improvisation théâtrale.
En première année, c'est donc tout un monde que l'on découvre. Enfin, ça dépend pour qui, car à la LUDI, les 6 années ne sont pas des niveaux, mais des âges d'ancienneté dans l'asso. Ainsi, certains ont déjà roulé leur poste théâtral, comme Alex Natch.
Je suis en première année à la LUDI en A1, mais
ça faisait 7 ans que je faisais de l'impro au Greek, au Grand Rochefort Impro Club.
On peut donc être facilement impressionné durant les matchs, mais heureusement, le coach de chaque équipe est là pour nous pousser à entrer sur scène. C'est ce qu'a fait Matteo ce soir pour les aérobies.
Mon rôle, c'est de les envoyer sur les impros, de dire ok, on part là-dessus, on part là-dessus, on part là-dessus.
En plus de la motivation, le coach est notre référence sur les règles des catégories et les styles imposés. Par exemple, pour un carré hollandais, les deux joueurs alignés face publique jouent leur impro.
Écoute ta déesse protectrice!
Et au coup de sifflet, les quatre joueurs changent d'une place pour que le duo face public soit renouvelé et qu'une autre histoire commence. Des récits racontés au mimé que capture le photographe, ce qui nous permet de voir un peu le rendu et d'alimenter la com.
En général, on fait des posts avec une dizaine ou une vingtaine de photos de l'événement pour faire la promotion des futurs événements.
Porter, installer le matériel, bref, être membre du staff ou du conseil administratif de la Ludi, c'est un grand engagement étudiant.
Ça prend du temps, mais c'est très chouette, c'est très utile.
Et ce sont aussi de grandes responsabilités, comme nous l'explique Juliette, la présidente de l'association.
Faire en sorte que tous les cours se passent bien, que tous les spectacles se passent bien, et faire grandir l'association d'année en année, finalement.
Le cumul des postes est par ailleurs possible.
Et ce soir, j'ai participé à la CUP, le tournoi inter-Ludi, et j'étais maître de cérémonie. Ça consiste à cadrer le spectacle, faire le...
Merci Clara pour ce petit reportage, mais assez de drames comme ça, on va chill avec le nouveau son de MJ Cole en feat avec Pink Panthers, histoire de se mettre dans le mood pour l'été.
D'écouter Still Sincere de MJ Cole avec Pink Panthers. Il est 18h36 sur Radio Campus et 20h38 pardon, sur Radio Sorbonne. Et oui, je suis d'accord, la house, c'est un peu ton pote qui se lance comme DJ à Belleville et un peu aussi la musique d'ascenseur de ton ex. Bon, c'est surtout un peu le son diffusé à Ikea pendant que tu te perds dans les différentes salles de bain. Mais bon, on se perd pas par contre quand c'est pour aller au bistrot, le tout puissant de tous les CF, la cantine d'Ikea. Donc Lara nous parle de suite dans la chronique des bruits.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
Et dis donc, on commence à être bien équipé en bon plan là. On peut aller boire des pâtes à 3,50, faire nos courses dans une épicerie solitaire ou encore mater des films pour 5 euros.
Mais qu'est-ce qu'il nous manque hein ?
Clara m'a dit, cette fois, je veux régaler plusieurs sens. C'est pas parce que Pâques est fini qu'on peut plus être gourmand.
J'approuve. Mais que vois-je ? Il est question de campagne et de meubles ?
Elle va peut-être nous parler de sa chasse aux œufs ou bien d'un déménagement, que sais-je. Tiens, on la laisse se débrouiller.
Et hello mes petits veaux, aujourd'hui direction la ferme puisque j'ai décidé que le bon plan de la semaine c'est de tous aller chez ma mamie, la reine des cuisses de canard et des clafoutis. Quoi, ça vous dit pas Limousin ? Bon, je blague, mais l'invitation tient toujours. Hein. Et c'est bien de la campagne que nous vient notre saint du porte-monnaie, aka Ingvar Kamprad. C'est qui celui-là ? Le patron du 2 bis ? Le fondateur de Too Good To Go ? Non. Et d'ailleurs, c'est une femme, hein, la fondatrice de Too Good To Go. Non, non, Ingvar Kamprad, c'est ton cauchemar ou ta ludie du dimanche. Au choix, c'est ton maître de géométrie, le roi des meubles en kit de l'emballage plat, grâce à qui tu habilles tes murs et tu garnis ton espace de vie. Père fondateur du géant suédois, j'ai nommé IKEA. L'acronyme n'est autre que celui d'Ingvar Kamprad et de sa femme familiale, Elmtairid, et du nom de son village, Agunarid. Et la débrouille dans tout ça ? Eh bien, déjà, c'est qu'une conférence peut changer votre vie, et ça, c'est sous-côté. Regardez, c'est en découvrant le taylorisme qu'Agunirad se dit « C'est fou, comme dans une activité commerciale, la lubie de rationalisation disparaît une fois le produit fabriqué. » Ainsi décida-t-il que son avenir serait dans la distribution. Mais plus que vous dire d'être curieux, c'est surtout parce qu'après les terrasses ensoleillées, les pintes à écouler et les meilleurs plans ciné, il est venu le temps du goûter. Alors oui, ce soir, je vous parle d'IKEA. Sans perceuse ni tiroir, muni d'un seul mode d'emploi, allez à la boutique 144 rue de Rivoli, prendre la première à gauche et vous y voilà, dans la cafette d'IKEA. Plutôt thé vert ou cappuccino ? Hot dog classique ou légumes ? Le petit boudin, il est tout coloré, c'est hyper drôle. Cannelé, glace vanille ou cannelle bunard ? Le cinnamon rolls suédois. Mais attendez, pourquoi choisir vu que tout est à 1 euro ? Oui, oui, 1, comme incroyable. Et attendez, c'est pas fini. Si la machine à glace ne fonctionne qu'à la détection du jeton et du cône, pour être doublement sûr que tu te resserves pas, la machine à café, elle, a juste besoin qu'on appuie dessus. Donc tu peux remettre ton petit gobelet. Bref, il y a de quoi être fan de ce bistrot suédois. Et pour nos confrères de l'Hexagone, des 27 autres pays où s'est implantée la marque, peut-être que vous aurez la chance de trouver en vitrine les Punch Rolls, cette pâtisserie suédoise à la pâte d'amande enrobée de chocolat, elle aussi à 1 euro. Mais quelle idée me diriez-vous ? Est-ce la pure œuvre de philanthropie ? Ou monsieur Ikea voulait-il s'endetter ? Hashtag en combien de temps ma boîte est cool ? Non, ce hashtag n'existe pas. D'après mes petites recherches, le bistrot suédois, c'est comme leur restaurant d'ailleurs. Il vise à augmenter la fréquentation et la durée des visites en accord avec la démarche du magasin. Construire une relation entre la marque et ses clients. Tu décores Ikea, tu dors Ikea et tu manges Ikea. Dans un décor Ikea, bien sûr. Et oui, la marque a remarqué que ses accessoires décoratifs pèsent un bon quart dans la contribution au résultat net. Alors, bah, elle joue là-dessus. Et puis, on ne joue jamais. Hein. Entre deux bouchées de hot dog, tu pourrais aussi réaliser que il te la faut cette commode trois tiroirs brun motif noyé. Heureusement que tu es encore au magasin, tu retournes au troisième. Et voilà, désolé pour la contre-pub au Crous, mais bon, notre chère cafette conserve l'avantage, celui de la proximité. Jusqu'à ce qu'un campus de la Sorbonne ouvre rue de Rivoli, qui sait.
Waouh, merci Clara pour cette découverte. Alors apparemment, j'habite pas à Paris parce que j'ai l'impression que tout le monde était au courant, mais en fait, je vais y aller demain midi direct. Bon, maintenant j'ai faim, mais on attendra mon prochain déménagement pour tester ce bistrot suédois. Peut-être que je me trouverai un petit studio dans le 13e, vers la place Jeanne d'Arc. Mais tiens, Ellie, tu nous en parles d'ailleurs, non ?
Oui, tout de suite dans la chronique pavée.
Shut up !
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Il est l'heure de rendre hommage à une grande femme, celle qui nous a sauvés d'une gastronomie douteuse et d'une famille royale déchirée. Les Anglais, bien sûr, je parle bien de Jeanne d'Arc, parce qu'avant d'être le symbole préféré de Jean-Marie Le Pen, dément parti trop tard, elle a été mal jugée par notre chère Sorbonne. Bref, je m'arrête là et liste à toi.
Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une des plus grandes injustices de l'histoire française, celle de Jeanne d'Arc. Nous sommes en 1431, Jeanne a à peine 19 ans, celle que l'on surnomme la Pucelle d'Orléans, héroïne de guerre, est capturée puis livrée aux Anglais, mais pour la faire tomber définitivement, il ne suffit pas de l'emprisonner, il faut salir son image. C'est là qu'intervient un acteur inattendu, les théologiens de la Sorbonne.
À l'époque, la Sorbonne est l'une des plus grandes autorités intellectuelles et religieuses d'Europe. Son avis compte et même énormément. Alors lorsqu'il s'agit de juger Jeanne d'Arc, accusée d'hérésie, de sorcellerie et de prétendre entendre des voix divines, certains de ses membres participent à légitimer le procès. Mais ce procès est-il vraiment juste ? En réalité, tout est joué d'avance. Derrière les accusations religieuses se cache un enjeu politique majeur, la guerre entre la France et l'Angleterre. Jeanne est un symbole, elle incarne la résistance française et pour les Anglais, il faut la faire passer pour une imposture. Le verdict tombe, coupable, et le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen, capitale du duché de Normandie, alors possession anglaise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 25 ans plus tard, un nouveau procès est organisé. Et cette fois, tout bascule. Jeanne est reconnue innocente, son procès est annulé. Elle devient peu à peu une héroïne, puis une sainte. Alors comment une jeune femme a-t-elle pu être condamnée avec le soutien d'une institution aussi prestigieuse que la Sorbonne, avant d'être totalement réhabilitée? Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, même les plus grandes autorités peuvent se tromper, ou pire, être influencées. Hashtag à méditer. Et parfois, il faut des décennies pour que la vérité éclate.
Merci ma boss lady Pref pour avoir parlé de la plus ancienne des boss ladies.
Allez, à toi maintenant de nous parler de l'une des premières à parler de sexe, non pas du premier mais du deuxième.
Et oui, mais pas d'elle seulement, de son mec aussi. Pff, pas le choix avec la chronique Sorbonne en personne.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me,
love, love. À Bagnols, Swann a eu un débat avec Thomas sur le strabisme qui est selon lui un atout sexy non négligeable. Personnellement, à part Vassily Schneider que j'ai eu la chance de croiser, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cet argument. Swann, par contre, en connaît une qui aime ça. Quand quelqu'un a un œil qui dit merde à l'autre.
Et oui, parce que je ne suis pas seulement une présidente mais aussi une dictatrice, j'ai choisi de modifier cette chronique à ma sauce afin que la douleur soit moins amère. Alors pour ce Sorbonne in Love, il faut imaginer Paris en 1929, des étudiants qui marchent vite, des cafés pleins, des discussions qui débordent sur le trottoir, et au milieu de tout ça, deux personnes qui ne savent pas encore qu'elles vont passer leur vie liée. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se rencontrent à la Sorbonne, ils préparent l'agrégation de philo. Lui, il a déjà une réputation, brillant, un peu insolent, très sûr de lui. Elle, c'est une étudiante exceptionnelle, rigoureuse, déterminée et surtout très indépendante pour son époque. Au début, il ne se passe rien de romantique, ils parlent, ils débattent, ils argumentent, ils se contredisent, ils passent du temps ensemble, mais c'est pas une histoire d'amour, c'est une confrontation d'esprit. Puis il y a le concours. Beauvoir pensait être première, elle ne l'est pas. C'est Sartre qui le sera et elle, deuxième. Elle a 21 ans, c'est la plus jeune reçue de France et c'est déjà un exploit. Elle ne transforme pas cela en une rivalité, elle ne s'éloigne pas de lui, au contraire, elle se rapproche. C'est là que quelque chose se joue, elle reconnaît en lui un égal. Il refuse la vie bourgeoise classique, celle qui commence souvent après les études, pas de mariage, pas de trajectoire tracée, comme s'il refusait de sortir de l'esprit de pensée libre des étudiants. Pour leur relation, ils parlent d'un amour nécessaire. C'est donc leur relation à eux deux qui compte vraiment, celle qui reste. Ils ne se considèrent pas comme indispensables l'un à l'autre. Un peu comme un duo qui ne se quitte jamais, quoi qu'il arrive. Mais à côté de ça, ils s'autorisent des amours dits contingents. En gros, ils peuvent tomber amoureux d'autres personnes, avoir d'autres histoires, d'autres relations intimes ou oisives. C'est là aussi que reste leur lien à la Sorbonne, puisque ces amours extérieurs étaient majoritairement des étudiants. Bon. Mais bon, pour eux, ce n'est pas tromper, c'est juste vivre, expérimenter, rester libre.
Je pense qu'aimer, ça n'est pas vouloir posséder, en effet. Je pense qu'aimer, c'est vouloir créer avec un autre être des liens qui ne sont pas des liens de possession, au sens où on possède, les vêtements qu'on porte ou ce qu'on mange.
Vous venez d'entendre Simone de Beauvoir dans une interview dans les années 70 où elle théorise leur relation. Sur le papier, elle a donc l'air très moderne, cette relation presque idéale. Pas de jalousie, pas de mensonge, chacun suit ses envies. Mais en réalité, c'est plus compliqué parce que les sentiments, ça ne se range pas dans des cases. On le sait tous, on a tous essayé les plans cul ou les coups d'un soir. Parfois, ces histoires secondaires prennent plus de place que prévu et parfois, ça fait souffrir. Et leur relation n'échappe pas au déséquilibre. Sartre garde une distance, une forme de liberté radicale, tandis que Beauvoir reste profondément liée à lui. Cela crée évidemment de la tension et de la jalousie, mais qu'elle semble accepter ce qu'elle définit mieux que nous.
Il y a tant de formes d'amour, il y a tant d'espèces de jalousie. Il y a des jalousies qui sont mesquines, il y a des jalousies qui sont très hautes, il y a toute espèce de jalousie. Il y en a qui sont possessives, il y en a qui sont encore tout à fait autre chose. Il y en a aussi souvent qui sont simplement des compensations parce qu'on sent plus ou moins qu'on est en train de rater quelque chose dans son existence. Alors à ce moment-là, on reporte tout sur l'amour et sur l'être aimé.
Et puis quand on refuse d'entraver sa liberté sans vouloir vous influencer, on refuse aussi d'avoir des gosses. Car évidemment, il n'y a rien de plus emprisonnant qu'une progéniture. Pour eux, avoir un enfant, c'est aussi une forme d'attache définitive. C'est quelque chose qui empêche de partir, de changer de vie, d'aimer ailleurs, de rester libre. Beauvoir surtout est très claire là-dessus. Elle refuse le rôle qu'on impose aux femmes à l'époque. Être mère, épouse, rester à la maison, très peu pour elle. Elle veut écrire, penser, vivre et ne dépendre de personne. Sartre, lui, est dans la même logique, mais bon, dans tous les cas, il risquait pas de tomber enceinte, donc... Voilà. Dans une interview sur leur relation et le féminisme, elle explique mieux que moi leur décision de ne pas avoir d'enfant qui leur est venue naturellement.
Quand j'étais très très jeune et que je pensais à faire un mariage bourgeois avec mon cousin Jacques, ça impliquait des enfants. Mais ma relation avec Sartre était telle que, tout de même sur une base plus intellectuelle que précisément institutionnelle, familiale ou quoi que ce soit, que je n'ai jamais éprouvé le désir d'avoir un enfant. Et ça, je l'ai expliqué d'ailleurs. Je n'avais pas tellement envie d'avoir une reproduction de Sartre, moi, il me suffisait. Et je n'avais pas envie non plus d'avoir une reproduction de moi-même.
Et heureusement qu'on n'a pas eu de reproduction de ce couple, certes brillant mais trop cérébraux et presque cruel à la fois. Comment un enfant aurait-il pu survivre à des parents comme eux? Bon, les années passent, les amants aussi, mais eux restent toujours, ils vieillissent ensemble, chacun de leur côté, mais sans jamais vraiment se quitter. C'est drôle, eux qui voulaient être libres à tout prix se retrouvent à être indéniablement incapables de se séparer de l'autre. Jean-Paul Sartre perd peu à peu la vue, s'épuise, continue d'écrire, de penser, de vivre à fond malgré tout, et Simone de Beauvoir est là, présente et fidèle à sa manière. Et puis, en 81, après la mort de Sartre, elle publie La cérémonie des adieux, un livre très cru, très intime où elle raconte la faim, la maladie, la ségrégation, la dépendance. Elle montre tout, sans filtre, et forcément ça choque parce que leur amour qu'ils avaient passé leur vie à théoriser devient soudain très réel, très fragile, très humain. Comme si à la fin il ne restait plus de concept, mais juste deux personnes qui se sont aimées à leur façon pendant toute une vie. Je ne peux que vous conseiller cet ouvrage qui vous illustrera mieux que je ne viens de le faire cette relation détachée et pourtant indissociable qu'ont vécu Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre toute leur vie.
Merci Swan pour cette Sorbonne in Love autant hors des règles que leur mariage au final.
Eh oui, je pouvais pas faire autrement. Déjà que vous me pensez à parler d'amour, hashtag Burke, je suis overwhelmed, j'ai besoin d'un break.
Ça tombe bien, on écoute Talk to You de Anotre tout de suite sur Cours d'honneur.
Let me take it higher so I can show you.
s'est promis un futur. Pas du tout. Il est 18h53 sur Radio Campus et 20h53 sur Radio Sorbonne. Vous venez d'écouter Talk to You de Anotre.
On enchaîne de suite avec une Sorbonne en personne de qualité avec Lavinia.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Cette fois-ci, c'est promis, un futur Sorbonne en personne sera consacré à notre vieux Thomas. Chanel.
Mais en attendant, la Vignette nous invite à plonger dans la vie d'un autre Thomas, ou plutôt devrais-je dire d'un saint Thomas d'Aquin.
C'est un théologien et philosophe qui lui aussi a fréquenté la Sorbonne du Moyen-Âge.
On nous parle la Vignette de suite.
Et oui, j'espère que cette chronique pourra rétablir la réputation de la théologie à la Sorbonne, comme on l'a vu avant avec Jeanne d'Arc. Et on va parler d'un saint passé par notre fac, jeune homme.
Saint François de Sales, vous allez me dire, mais il y a déjà une émission sur Saint François de Sales.
Ah, excusez-moi, mauvais saint, enfin mauvais gars, même si on n'a jamais assez d'émissions sur Saint François de Sales. Évidemment qu'il s'agit de Saint Thomas d'Aquin, mais pour que je puisse vous présenter sa vie et sa pensée, il faut remonter sacrément en arrière. Né au début du XIIIe siècle près de Naples, Thomas d'Aquin appartient à l'une des plus importantes familles italiennes de l'époque. À 19 ans, il est reçu parmi les novices de l'ordre dominicain, mais sa mère refuse de le laisser partir. Elle se résout alors à ce que toute bonne mère ferait dans cette situation, le kidnapper sur sa route vers l'établissement. Et oui, la prochaine fois que vous sécherez un CM, pensez à notre bon Thomas qui aurait rêvé, lui, de marcher en homme libre jusqu'à son cours. Sa mère finit toutefois par changer d'avis et Thomas d'Aquin peut prononcer ses vœux religieux en 1243. Durant cette époque, il étudie à l'université de Paris, puis à Cologne. De nature taciturne, il se fait surnommer par ses compagnons le grand bœuf muet de Sicile, parce que le nom de scène, le fameux, était déjà pris. La légende raconte que lors d'une argumentation publique brillante soutenue par Thomas d'Aquin, son maître se serait tourné tout ému vers ses élèves et leur aurait prédit, je cite, « que les mugissements de ce bœuf retentiront dans tout l'univers ». Et d'une manière ou d'une autre, ils retentissent toujours.
Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture ?
C'était bien trouvé, avoué. En 1248, Thomas d'Aquin commence à enseigner à Cologne, puis revient à Paris, où il est reçu bachelier et occupe une chaire de théologie. Il consacre les 9 dernières années de sa vie à la rédaction de son magnum opus, la Somme de théologie. L'essentiel de la philosophie de saint Thomas consiste à concilier les écrits des Grecs, notamment Aristote et Platon, avec les textes de la Révélation, opérant une synthèse de l'aristotélisme et du christianisme. Thomas d'Aquin souhaite avant tout réconcilier foi et raison, tout comme le groupe Enigma a pu harmonieusement concilier techno et chant grégorien. Et pour terminer sur une citation de notre bon saint Thomas, le but de la philosophie n'est pas de savoir ce que les hommes ont pensé, mais bien quelle est la vérité des choses.
Merci Lavinia d'avoir raconté l'illustre vie de notre Thomas. Enfin non, mince, pas le nôtre, pardon, avec les dates, c'est à s'y méprendre.
Mais non Thomas, on rigole, on sait que tu n'es pas aussi vieux que la Sorbonne.
D'ailleurs, on sort de ces couloirs poussiéreux pour respirer l'air frais de Paris, loin de la fac, mais près, très près des étudiants avec la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Vous sentez cette odeur, vous aussi ? C'est celle du printemps, des presque vacances et des promenades du dimanche. Sous ce beau soleil d'avril, Paris nous offre les plus beaux paysages de cartes postales, comme le canal Saint-Martin que Mathilde est allée côtoyer en séjour ensoleillé.
Pour continuer sur notre lancée des lieux incontournables de Paris, j'ai choisi d'aller me balader du côté du 10e arrondissement. Ou plutôt du 19e, non, du 11e, du 4e, attends, du 12e plutôt, non ?
Ça fait beaucoup là, non ?
Bon, pas évident de savoir parce qu'en réalité, le canal Saint-Martin se déploie intégralement dans la capitale et couvre ses 5 arrondissements, du nord au sud, un peu comme la ligne 7 du métro. Si on fait le calcul, cela revient à une longueur de 4,5 km, dont 2 qui se situent en souterrain et un dénivelé de 25 mètres. En plus de ça, 9 écluses, 2 ponts tournants, 2 ponts fixés, 5 passerelles piétonnes ponctuent le canal Saint-Martin. C'est un véritable monstre de fonte qui relie le bassin de la Villette au port de l'Arsenal plus au sud. J'ai choisi d'entamer ma balade en partant du bas en déambulant sur le quai de Valmy, où se situe notamment l'écluse du Temple. Si le nom ne vous dit rien, peut-être que cette terre, lui, vous dira quelque chose. On est dans le cliché jusqu'au bout, mais c'est ça la beauté des décors de cinéma, les voir en vrai. J'entendais presque les ricochets d'Amélie sur le canal, que j'ai tenté de reproduire. Enfin, mais la balade continue et notre virée cinéphile ne s'arrête pas là. En poursuivant mon chemin, j'arrive au niveau d'une passerelle dont le nom me semble familier, la passerelle Arletty. Elle a été dénommée ainsi en 2022 en hommage à l'actrice dont la fameuse réplique résonne encore au creux du canal. Ces paroles sont bien celles du film Hôtel du Nord de Marcel Carné, hôtel que l'on peut d'ailleurs admirer qu'EGMAP. C'est aujourd'hui une brasserie très branchée qui accueille bien plus de visiteurs qu'en 1938, comme en témoignent les bruits de vaisselle et les rires. Ces sons environnants imbibent les quais du canal de joie de vivre qui se feraient presque sentir dans les nazimans des cantons, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls à profiter de l'eau. Des dizaines de bateaux voguent sur le canal, tant des embarcations privées que des bateaux mouches, et pour ce qu'il en est des bateaux amarrés, cela vous accueille à bras ouverts pour manger un bout ou boire un coup. En parlant de boissons, pour la petite anecdote, la construction du canal était financée par la taxe sur le vin.
T'aimes pas le pinard ? Tant pis pour toi.
En tout cas, c'est fou de penser que cet immense point d'eau a failli disparaître en 1970 pour devenir une autoroute. Une idée franchement discutable de Georges Pompidou à laquelle se sont opposés vigoureusement les riverains pour empêcher le projet. Et après 40 minutes de marche, en arrivant enfin au bassin de la Villette, car non, je ne suis pas allée en courant comme les joggeurs que j'ai croisés par dizaines le long des quais, je me pose une question que vous vous posez peut-être aussi. Pourquoi a-t-on créé le canal Saint-Martin ? Napoléon décide la construction du canal Saint-Martin afin d'approvisionner la ville en eau douce et de transporter les marchandises. Il est inauguré en 1825 et devient rapidement le 4e port français, une belle réputation qui ne dure cependant pas, puisqu'avec la chute du transport fluvial, on le pense, le canal mort. Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot et renaît de ses cendres dans les années 2000 lorsqu'il se boboïse avec l'arrivée des magasins de luxe, de boutiques, entrepôts et de bars alternatifs qui en font l'endroit branché que l'on connaît aujourd'hui.
Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore.
Alors projeté dans le passé et coincé dans le présent, ce n'est pas pour nous déplaire que nous ignorons le futur pour profiter un peu plus longtemps des bords verts ensoleillés du canal, bercés par les clapotis de l'eau et la bonne humeur des promeneurs.
Merci Mathilde pour cette carte postale presque reportage. Finalement, on en apprend tellement.
Allez, sur ce. Bronzés.
Oui, merci d'avoir montré notre quartier préféré. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci à Victor Gisembert, interviewé par nous deux.
On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et on peut aussi remercier toute l'équipe qu'on retrouve enfin
dans notre placard à balais. Merci à Romain.
Et merci à vous. Et c'était une super émission. Et passez une bonne soirée.
Merci, merci aussi à Elias pour ce débat.
Ben, merci tout le monde, j'ai kiffé, super émission. Merci à l'Avenir pour la petite dédicace.
Plaisir toujours.
Et ben, hâte d'être à la prochaine.
Et ben, à la prochaine, Elias, on dit bonsoir à Clara aussi.
Et bonsoir, alors moi je propose une virée goûter à Ikea la prochaine fois. Ou sinon, samedi, si vous avez rien à faire, il y a le match de la Ludie toute l'après-midi et ça finit en soirée.
Génial, on a hâte de regarder ça. Merci aussi à l'Avenir.
Merci les filles, toujours un plaisir de vous écouter. Ça, vous m'avez manqué
plaisir
à Bagnos.
Partager. Et oui, mais vous aussi.
Merci, toi aussi. Merci aussi à Mathilde.
Bah, merci à vous, ce fut un épisode très enrichissant, je trouve. Merci à vous les filles.
Ah, ça nous a bien réveillés. Merci aussi à Thomas Schnell derrière les platines, le muet.
Allez, haut les cœurs.
Voilà.
Sur ce, soyez vous-même.
Soyez vous-même.
Restez curieux.
Restez avec nous. On vous aime. Bisous. Ciao.
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends. Est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille. On frissonne.